Le frère de la côte, chapitre 3. L'affectation commune aux marins de ne s'étonner de rien de ce que peut offrir la mer ou la terre était devenue chez Pérol une seconde nature. Ayant appris dès l'enfance à réprimer tout signe d'étonnement en présence de spectacles ou d'événements extraordinaires, de gens singuliers, de coutumes étranges, ou des plus redoutables phénomènes de la nature, la violence des volcans par exemple, ou la furie des êtres humains, il était devenu vraiment indifférent, ou peut-être seulement tout à fait inexpressif. Il avait été témoin de tant de bizarreries et d'atrocités, avait entendu tant d'histoires étonnantes, qu'en face d'une nouvelle aventure, sa réaction mentale était généralement formulée par les mots « j'en ai vu bien d'autres ». La dernière fois qu'il avait été frappé d'une sorte de panique du surnaturel, ça avait été lorsqu'il avait assisté à la mort, sur un tas de haillons, de cette femme farouche et décharnée, sa mère. Et la dernière chose qui lui avait, à l'âge de 12 ans, communiqué une sorte de terreur, ça avait été le bruit et la multitude de tous ces gens sur les quais de Marseille, une chose vraiment inconcevable, et qu'il avait fait se réfugier derrière une pile de sacs de blé quand on l'eut jeté hors de la tartane. Il était resté là, tremblant, jusqu'à ce qu'un homme avec un chapeau à cocarde et un sabre au côté, l'enfant n'avait jamais vu chapeau ni sabre de ce genre, l'eût saisi sous le bras et l'eût tiré de là. Un homme qui aurait pu lui paraître un ogre, mais Pérol n'avait alors jamais entendu parler d'un ogre, et qui, en tout cas, avait dans son genre quelque chose de plus effrayant et de plus étonnant que tout ce qu'il aurait pu imaginer, si l'imagination avait été alors développée le moins du monde en lui. Il y avait assurément de quoi mourir de frayeur, mais ça n'arriva pas. Il ne devint même pas fou. Comme ce n'était qu'un enfant, il s'adapta simplement, par une sorte d'acceptation passive, aux conditions nouvelles et inexplicables de la vie, et ce fut l'affaire de 24 heures à peu près. Après cette initiation, le reste de son existence, depuis les poissons volants jusqu'aux baleines, aux nègres et aux récifs de corail, au pont ruisselant de sang et à la torture par la soif dans des barques, n'avait guère été en comparaison qu'une navigation normale. À l'époque où il entendit parler d'une révolution en France et de certains immortels principes qui causaient la mort de quantité de gens, et cela il l'apprit soit de la bouche de marins et de voyageurs, soit dans des gazettes vieilles d'un an et qui venaient d'Europe, il était déjà en état d'apprécier à sa manière l'histoire contemporaine. Ce mutiné passait des officiers par-dessus bord. Il avait déjà vu pareille chose à 2 reprises, et il avait même été d'un côté différent chaque fois. Mais quant à ce bouleversement-là, il ne prit aucun parti. C'était trop loin, trop grand, et trop confus aussi. Il avait appris pourtant le jargon révolutionnaire assez rapidement, et en faisait usage à l'occasion, quoiqu'avec un secret mépris. Tout ce qu'il avait enduré, depuis l'amour fou pour une femme jaune jusqu'à la trahison d'un ami intime, camarade de bord, et Pérol s'avouait à lui-même qu'il ne pouvait encore s'expliquer ni l'un ni l'autre, sans compter les divers degrés de son expérience des âmes et des passions dans l'entretemps, tout cela avait teinté d'un mépris général, un sédatif étonnant, l'étrange mixture qu'on pouvait appeler l'âme de Pérol à son retour au pays. Aussi, non seulement ne manifesta-t-il aucune surprise, mais encore n'en éprouva-t-il aucune quand il aperçut à droite de sa femme le maître de la ferme d'Escampaubard. Pérol, assis dans cette salle vide, une bouteille de vin devant lui, était en train de porter le verre à ses lèvres quand il vit entrer l'homme, l'ex-orateur de section, chef de bonnet rouge, chasseur de ci-devant et de prêtre, fournisseur de la guillotine, bref, un buveur de sang. Et le citoyen Pérol, qui n'avait jamais été à moins de 6 000 des réalités de la Révolution, posa son verre tranquillement et lança de sa voix profonde ce seul mot « Salut !» L'autre répondit par un « Salut !» beaucoup plus faible, en regardant fixement cet étranger dont on venait de lui parler. Ses yeux doux et taillés en amande étaient remarquablement brillants, de même que la peau qui couvrait ses pommettes hautes et rondes et rouges comme celle d'un masque. Tout le reste de la figure n'était qu'une masse de poils bruns en broussailles et qui poussait si abondamment près des lèvres qu'il cachait entièrement le dessin d'une bouche qui, d'après ce que savait Pérol, devait avoir un certain caractère de férocité. Le front soucieux et le nez droit indiquaient de l'austérité comme il convient à un ardent patriote. L'homme tenait à la main un long couteau qu'il posa aussitôt sur une table. Il ne semblait pas avoir plus de 30 ans, il était bien pris et de taille moyenne. Mais toute son allure trahissait un manque de résolution et la forme de ses épaules, une sorte de désillusion. C'était là un effet assez subtil, mais qui n'échappa point à Pérolle, tandis qu'il expliquait son cas et finissait son récit en déclarant qu'il était un marin de la République et qu'il avait toujours fait son devoir devant l'ennemi. Le buveur de sang avait écouté attentivement. La courbe de ses sourcils lui donnait une expression d'étonnement. Il se rapprocha de la table et se mit à parler d'une voix qui tremblait d'indignation. « Cela se peut. Mais on a peut-être pu tout de même vous corrompre. Les marins de la République ont bien été corrompus par l'ordre des tyrans. Qui l'aurait jamais cru? Ils parlaient tous comme des patriotes. Et pourtant les Anglais sont entrés dans le port et ont débarqué dans la ville sans rencontrer la moindre opposition. Les armées de la République les ont chassés, mais la trahison est tapie dans la terre, elle monte du sol, elle s'installe à nos foyers, se cache dans le sein des représentants du peuple, dans celui de nos pères, de nos frères. Il fut un temps où fleurissait la vertu civique, mais à présent elle doit se cacher. Et je vais vous dire pourquoi. On n'a pas assez tué. On croirait qu'on ne pourra jamais en finir. C'est décourageant. Voyez où nous en sommes. » Sa voix s'étrangla dans sa gorge, comme s'il avait soudain perdu toute confiance en lui. « Un autre verre, citoyen, » dit Pérolle après un moment, « et buvons ensemble. Nous boirons à la confusion des traîtres. Je déteste la trahison comme personne, mais... » Il attendit que l'autre fût revenu, puis il versa le vin, et après qu'ils eurent trinqué et à demi vidé leur verre, il posa le sien et reprit. « Mais voyez-vous, je n'ai rien à faire avec vos hommes politiques. J'étais à l'autre bout du monde. Vous ne pouvez donc pas me soupçonner d'être un traître. Vous n'avez pas eu de merci, vous autres sans culottes, pour les ennemis de la République à l'intérieur du pays. Moi, j'ai tué ces ennemis au dehors, bien loin d'ici. Vous coupiez les têtes sans beaucoup de cérémonie. » À ces mots, l'autre ferma soudain les yeux un moment, puis les rouvrit tout grand. « Oui, oui, » acquiesça-t-il à voix basse, « la pitié peut être un crime. » Oui. Et j'ai frappé les ennemis de la République à la tête. N'importe où je les ai trouvés, devant moi, sans m'inquiéter de leur nombre. Il me semble que vous et moi, nous sommes faits pour nous entendre. » Le maître de la ferme d'Escampaubard murmura, toutefois, qu'en des temps pareils, on ne pouvait rien considérer comme une preuve positive. Chaque patriote devait nourrir la suspicion dans son sein. Pérolle ne montra aucune impatience. Sa maîtrise de soi et l'inaltérable bonne humeur avec laquelle il avait mené la discussion lui valurent d'avoir gain de cause. Le citoyen Cébola Bron, tel était le nom du maître de la ferme, objet de crainte et d'horreur pour les autres habitants de la presqu'île de Gien, se laissa probablement influencer par le désir d'avoir quelqu'un avec qui échanger de temps à autre quelques mots. Aucun des villageois ne se souciait de venir jusqu'à la ferme, et il n'en viendrait aucun, à moins qu'ils ne vinssent tous encore et animés d'intentions hostiles. Ils étaient assez fâchés d'avoir cet homme dans le pays. « D'où venez-vous ?» fut la dernière question qu'il posa. « J'ai quitté Lyon il y a 2 jours. » Le citoyen Cévola frappa la table du poing, mais cette manifestation d'énergie fut de courte durée. Et dire que c'est la ville dont un décret disait qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, s'écria-t-il d'un air désolé. La plupart sont encore debout, assura Pérolle avec calme. Je ne sais si la ville a mérité le sort qu'avait prescrit ce décret. Je viens d'y passer 1 mois à peu près, et je sais qu'on y rencontre de bons patriotes. Je le sais parce que je me suis lié avec eux tous. Et Pérolle cita quelques noms que l'ancien sans-culotte accueillit d'un sourire amer et d'un inquiétant silence, comme si les gens qui les portaient n'avaient été bons que pour l'échafaud et la guillotine. « Venez que je vous montre où vous coucherez, » dit-il en poussant un soupir. Pérolle s'empressa de le suivre. Ils entrèrent ensemble dans la cuisine. Par la porte du fond, large ouverte, un grand carré de soleil tombait sur les dalles. Dehors, une troupe de poulets s'agitait en attendant leur pâture, tandis qu'une poule jaune, juchée sur le seuil, penchait la tête à droite et à gauche avec affectation. La grandeur et la propreté de la pièce firent sur Pérolle une impression des plus favorables. « Vous mangerez ici avec nous, » lui dit son guide. Sans s'arrêter, ils suivirent un étroit passage qui conduisait au pied d'un escalier assez raide. Au-dessus du premier étage, un escalier étroit et en spirale donnait accès à l'étage supérieur de l'habitation, et quand le sans-culotte eut ouvert une épaisse porte de bois, Pérol se trouva dans une grande pièce mansardée qui contenait un lit à colonnes, sur lequel étaient posés en tas des couvertures et des oreillers de rechange. Il y avait aussi deux chaises de bois et une grande table ovale. « On pourrait arranger cette pièce pour vous, » dit le maître. « Mais je ne sais ce qu'en dira la maîtresse, » ajouta-t-il. Pérol, frappé de l'expression particulière qu'avait prise la figure de Cévola, tourna la tête et vit la jeune femme debout près de la porte. On eût dit qu'elle avait flotté derrière eux, car aucun bruit de pas, si léger fût-il, n'avait trahi sa présence. Ses lèvres rouges et ses bandeaux de cheveux noirs, que couvrait en partie un bonnet de mousseline bordé de dentelle, faisaient ressortir encore le teint pur de ses joues blanches. Elle ne fit aucun signe, ne prononça pas une seule parole, exactement comme s'il n'y avait eu personne dans la pièce. Et Pérol soudain se détourna de ce visage inconscient, aux yeux inquiets. On ne sait comment, toutefois, le sans-culotte dut l'avoir comprise, car il déclara d'un ton décisif « Ça va bien, alors !» Pendant le silence qui suivit, les yeux de la femme ne cessèrent d'errer tout autour de la pièce, tandis qu'un demi-sourire se dessinait sur ses lèvres, un sourire moins distrait encore qu'inexplicable, et que Pérol observa du coin de l'œil, sans pouvoir parvenir à en comprendre la raison. Elle ne sembla même pas le connaître. « Vous avez la vue de trois côtés sur la mer, ici, » remarqua le futur hôte de Pérol. L'habitation était fort élevée, et cette grande mansarde à trois fenêtres donnait d'un côté sur la rade d'hier, au premier plan, et au loin sur les ondulations bleuâtres de la côte vers Fréjus. De l'autre côté, sur le vaste demi-cercle de hautes collines dénudées que coupait l'entrée du port de Toulon, gardée par ses forts et ses batteries, et qui s'achevait par le cap Sépet, avec sa masse robuste aux sombres replis, des rochers bruns à sa base et une tache blanche à son sommet, un ci-devant sanctuaire consacré à Notre-Dame et ci-devant lieu de pèlerinage. L'éblouissant midi semblait fondre à la surface sans défaut de la mer. « On se croirait dans un phare !» s'écria Pérol. « C'est un endroit fait pour un marin !» La vue de voiles çà et là sur la mer réconforta son cœur. Les gens de la terre, leurs maisons, leurs animaux et leurs faits et gestes ne l'intéressaient guère. La vie réelle des rivages étranges où il avait passé, ça avait été pour lui leurs embarcations, canoës, catamarans, palaousses, prosses, leurs chasses, ou même simples radeaux faits de troncs côte à côte, avec un bout de natte comme voile, et sur lesquels des hommes de couleur s'en allaient pêcher le long de bancs de sable blanc, accablés par un ciel tropical, ou dans le reflet sinistre d'un nuage orageux suspendu à l'horizon. Il ne vit là que sérénité parfaite. Le rivage n'avait rien de sombre, l'éclat du soleil rien de menaçant. Le ciel semblait posé légèrement sur la chaîne distante et vaporeuse des collines, et toute cette immobilité complète semblait en équilibre dans l'air comme un aimable mirage. Sur cette mer sans marée, on pouvait voir plusieurs tartanes immobilisées par le calme plat dans la petite passe entre Porquerolles et le Cap Esterel, et pourtant leur immobilité n'était pas celle de la mort, mais celle d'un léger sommeil, la tranquillité d'un souriant enchantement, d'un beau jour en Méditerranée, sans le moindre souffle parfois, mais non pas sans vie. Quelque enchantement que Pérol eût pu éprouver au cours de sa vie vagabonde à la mer, il était toujours venu s'y mêler des pensées de combat et de mort. Jamais cette sécurité souriante à la lumière de laquelle tout son passé lui apparaissait comme une succession de jours sombres et de nuits accablantes. Il eut l'impression qu'il n'aurait plus jamais envie de sortir de là, comme un obscur sentiment que son âme de vieux flibustier n'avait jamais cessé d'être enracinée à cet endroit du monde. Oui, c'était un endroit fait pour lui, non pas parce que la nécessité l'y contraignait, mais simplement parce que son désir de repos avait enfin trouvé un gîte. En se détournant de la fenêtre, il se trouva face à face avec le sans-culotte qui s'était apparemment rapproché de lui, avec l'intention peut-être de lui taper sur l'épaule, mais qui alors tourna la tête. La jeune femme avait disparu. « Dites-moi, patron, lui dit Pérol, n'y a-t-il pas près d'ici une petite crique où je pourrais à l'occasion mettre un bateau ? Qu'est-ce que vous voulez faire d'un bateau ? Aller à la pêche quand le cœur m'en tira, répondit Perrol tranquillement. Le citoyen Bron, subitement radouci, lui déclara qu'il trouverait ce qu'il lui fallait à environ 200 mètres de la maison, au bas de la colline. La côte était partout très découpée, mais là il trouverait une espèce de petit bassin. Et les yeux en amande du buveur de sang toulonnais prirent une expression étrangement sombre en regardant Perrol, qui l'écoutait avec attention. Un petit bassin qui communiquait avec une anse que les Anglais connaissaient bien. Il se tut pendant un moment. Sans animosité, mais avec conviction, Perrol remarqua qu'il était bien difficile de tenir les Anglais à l'écart d'un endroit où il y avait un peu d'eau salée. Mais il ne pouvait imaginer ce qui avait pu les amener dans un pareil endroit. « C'est quand leur flotte est venue pour la première fois, » répondit le patriote d'une voix caverneuse, « et qu'elle croisait en vue de la côte, avant que les traîtres anti-révolutionnaires ne les eussent fait entrer dans Toulon et eussent vendu le sol sacré de leur patrie pour une poignée d'or. Oui, pendant les jours qui ont précédé l'accomplissement de ce crime, des officiers anglais débarquaient la nuit dans cette anse et montaient jusqu'à cette maison où nous sommes. Quelle audace !» remarqua Perrol, vraiment surpris cette fois. « Oui, c'est leur genre. Tout de même, c'est difficile à croire. Ce n'est pas une histoire ?» Le patriote étendit violemment le bras. « J'ai juré que c'était vrai devant le tribunal, » dit-il. « C'est une sombre histoire !» s'écria-t-il d'une voix perçante. Il s'arrêta. « Cela a coûté la vie à son père, » reprit-il la voix basse, « et à sa mère aussi. Mais la patrie était en danger, » ajouta-t-il la voix plus basse encore. Perrol se dirigea vers la fenêtre qui donnait vers l'ouest et regarda dans la direction de Toulon. Au milieu de l'étendue d'eau qui le séparait du cap Sissier, il aperçut un vaisseau à deux ponts et de petits points noirs, ses chaloupes, qui s'efforçaient de lui mettre le nez dans la bonne direction. Perrol les observa un moment, puis revint au milieu de la pièce. « L'avez-vous vraiment arraché d'ici pour le conduire à la guillotine ? » demanda-t-il d'un air indifférent. Le patriote hocha la tête pensivement, les yeux baissés. Non, il est venu à Toulon, juste avant l'évacuation, c'était un ami des Anglais. Il a fait le trajet dans une tartane qu'il avait et qui est restée ici, à Madrague. Il avait sa femme avec lui. Ils étaient venus pour rechercher leur fille, qui était alors confiée à des religieuses qui se cachaient. Les républicains victorieux approchaient et les esclaves des tyrans ne pensaient plus qu'à fuir. « Ils étaient venus chercher leur fille, » dit Perrol d'un air rêveur. « C'est curieux que les coupables eussent... » Le patriote dressa la tête farouchement. « Ce fut justice, » dit-il à voix haute. « C'étaient des anti-révolutionnaires, et en admettant même qu'ils n'eussent jamais parlé à un Anglais, ils avaient sûrement ce crime atroce en tête. » « Et ils sont restés trop longtemps à la recherche de leur fille, » murmura Perrol. « Et c'est vous qui l'avez reconduite chez elle. » « En effet, » répondit le patron. Un moment, ses yeux évitèrent le regard investigateur de Perrol, mais bientôt après, il le regarda bien en face. Aucune leçon de honteuse superstition n'est venue corrompre son âme, déclara-t-il avec exaltation. « Je l'ai ramenée chez elle, patriote !» Perrol, très calme, fit un geste d'assentiment à peine perceptible. « Eh bien, » dit-il, « tout cela ne m'empêchera pas de dormir fort bien dans cette pièce. » J'avais toujours pensé que j'aimerais habiter un phare quand j'en aurais assez de courir les mers. Ça ressemble vraiment à la lanterne d'un phare, ajouta-t-il en se dirigeant vers l'escalier. Salut, citoyen. Perrol avait une maîtrise de soi qui confinait à la placidité. En Orient, des hommes n'avaient pas mis en doute que Perrol fût un homme à la fois calme et terrible. Ils pouvaient en citer des exemples qui, à leur point de vue, étaient parfaitement admirables. Quant à Perrol lui-même, il pensait qu'il n'avait fait que se conduire raisonnablement dans toutes sortes de dangereuses circonstances, sans se laisser égarer ni par la nature, ni par le danger de quelque situation que ce fût. Il savait s'adapter au caractère et à l'esprit même d'un événement sans la moindre sentimentalité. Le sentiment en soi était une création artificielle dont il n'avait jamais entendu parler et qui, s'il l'avait vu agir, lui aurait paru trop compliqué pour pouvoir en faire usage. Cette sorte d'acceptation naturelle fit de Perrol un très satisfaisant commensal de la ferme d'Escampobard. Il débarqua sans encombre avec son chargement, comme il disait, et à la porte de la maison il trouva la jeune femme au visage pâle et au regard errant. rien de ce qui l'entourait ne pouvait fixer longtemps son attention. À droite, à gauche, au loin, elle semblait toujours chercher quelque chose pendant qu'on lui parlait, au point qu'on ne savait si elle suivait vraiment ce qu'on lui disait. Elle avait pourtant toute sa présence d'esprit. Malgré son air de toujours chercher quelque chose d'invisible, elle adressa un sourire à Pérol. Puis, se retirant dans la cuisine, elle observa, autant que ses regards inquiets pouvaient observer quoi que ce fût, le chargement de Pérol et Pérol lui-même quand il monta l'escalier. La partie la plus précieuse du chargement de Pérol étant suspendue à sa propre personne, la première chose qu'il fit, une fois seul dans sa chambre, fut de se débarrasser de son fardeau et de le poser sur le pied du lit. Puis il s'assit et, accoudé à la table, se mit à le contempler avec un sentiment de complet soulagement. Ce butin n'avait jamais chargé sa conscience, il n'avait fait par moments qu'oppresser son corps. Et si son esprit en avait été tant soit peu affecté, ce n'était pas à cause de son caractère secret, mais plus simplement à cause de son poids qui était gênant, irritant et, à la fin de la journée, parfaitement insupportable. Un marin comme lui, libre d'allure et respirant à l'aise, se faisait l'effet d'un animal surchargé, et cela augmentait ce que la nature de Pérol avait de compassion pour les bêtes à quatre pattes qui portent ici-bas les fardeaux des hommes. Les nécessités d'une existence illégale avaient fait de Pérol quelqu'un d'impitoyable, mais non pas de cruel. Allongé sur sa chaise, nu jusqu'à la ceinture, sa tête robuste et grisonnante au profil romain appuyé sur un avant-bras puissant et couvert de tatouages, il se sentait enfin à son aise, les yeux fixés sur son trésor avec un air de méditation. Pérol ne méditait pas, comme un observateur superficiel aurait pu le croire, sur la meilleure cachette à lui donner. Il avait bien eu quelque expérience de cette sorte de propriété qui lui avait toujours rapidement fondu entre les doigts. Mais ce qui le rendait pensif, c'était le caractère même de ce trésor. Non plus une part de butin chèrement acquise, au prix de lutte, de danger, de labeur, de privation, mais un coup de chance pour lui seul. Il savait ce que c'était que du butin, et combien cela se dissipait vite. Mais cela, ça devait durer. Il l'avait là avec lui, fort loin de ces parages où il avait passé le plus clair de sa vie, pour ainsi dire dans un autre monde. Il ne s'agissait pas de le dilapider à boire, à jouer, ou de toute autre façon habituelle. Dans cette pièce qui dominait de quelques pieds ce pays natal où il se sentait plus étranger que partout ailleurs, dans cette vaste mansarde inondée de lumière et pour ainsi dire environnée par la mer, Pérol, plongé dans une sensation de paix et de sécurité, ne voyait pas de quoi se casser la tête. Il s'aperçut qu'il ne s'était jamais vraiment soucié de la part du butin qui avait pu lui revenir. Jamais se soucier extrêmement de celui-ci, que personne n'essaierait de reprendre, ce serait vraiment absurde. Pérol se leva et se mit en devoir d'ouvrir un grand coffre en bois de santal que fermait un énorme cadenas, sa part du butin ramassée dans une ville chinoise du golfe du Tonkin, en compagnie de quelques frères de la côte qui avaient mis une nuit le grappin sur une goélette portugaise. Il était jeune alors, très jeune. On lui laissa le coffre parce que personne d'autre ne voulait de quelque chose d'aussi encombrant. Et aussi parce que le métal des cercles, curieusement ouvragé et qui le renforçait, n'était pas de l'or mais du cuivre. Lui, dans son innocence, avait été ravi de cet objet. Il l'avait traîné avec lui dans toutes sortes d'endroits, il l'avait même abandonné pendant une année entière dans une caverne sombre et humide dans un certain endroit de la côte de Madagascar. Il l'avait confié à des chefs indigènes, à des Arabes, à un tenancier de tripot à Pondichéry, à des amis singuliers et même à des ennemis. Une fois, il l'avait perdu. C'était la fois où il avait reçu une blessure qu'il avait laissée béant et perdant le sang comme une outre. Une discussion s'était élevée tout à coup dans une compagnie de frères de la côte sur on ne sait quelle conduite à suivre que compliquaient des jalousies personnelles, dont il était aussi innocent qu'un nouveau-né. Il ne sut jamais qui lui avait porté le coup. Un autre frère, un de ses camarades, un jeune anglais, était intervenu dans la bagarre, l'avait tiré de là, et il ne s'était plus rappelé ce qui lui était arrivé pendant des jours. Maintenant, quand il regardait la cicatrice, il ne comprenait pas comment il avait pu en réchapper. Cette aventure, sa blessure et une pénible convalescence avaient quelque peu assagi son caractère. Bien des années plus tard, ses idées sur la légalité s'étant modifiées, il servait comme quartier-maître à bord de l'Hirondelle, un corsaire relativement respectable, quand il aperçut son coffre à Port-Louis, à la devanture d'une échoppe que tenait un hindou solitaire. L'heure était tardive, la petite rue déserte, et Pérol entra réclamer son bien, loyalement, 1 dollar d'une main, 1 pistolet de l'autre. L'hindou, sans résistance, le laissa l'emporter. Il chargea le coffre vide sur son épaule, et le même soir, le corsaire prit la mer. Alors seulement, il put s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, car, peu après l'avoir eu pour la première fois, il avait, dans un mouvement de sinistre légèreté, gravé à l'intérieur, avec la pointe d'un couteau, le grossier dessin d'un crâne et de 2 os entrecroisés, qu'il avait ensuite badigeonné en rouge avec de la laque de Chine. Le dessin y était aussi frais que jamais. Dans cette mansarde, tout inondée de lumière de la ferme d'Escampobar, Pérol ouvrit son coffre. Il en retira tout le contenu, et après avoir étendu son trésor au fond, il remit tout en place. Une veste ou deux, une vareuse de drap fin, un morceau de mousseline de Matopolam, dont il n'avait que faire, et une certaine quantité de chemise fine. Personne n'oserait venir fourrager dans son coffre, pensait-il, avec l'assurance de quelqu'un qui, dans son temps, a su inspirer la crainte. Il se releva, parcourut la pièce du regard en étirant ses bras puissants, et il cessa de penser à son trésor, à l'avenir et même au lendemain, pénétré de la soudaine conviction qu'il serait décidément fort bien dans ce logis. Le frère de la côte, chapitre 4. Pérol se rasait avec son inusable rasoir anglais devant un morceau de glace suspendu au montant de la fenêtre, car ce jour-là était un dimanche. Les années qui, après bien des agitations politiques, avaient abouti à la proclamation de Bonaparte comme consul, n'avaient guère laissé de traces sur Pérol, si ce n'est que son épaisse chevelure était devenue presque blanche. Après avoir soigneusement remis son rasoir dans l'étui, Pérol mit sa meilleure paire de sabots et descendit bruyamment l'escalier. Sa culotte de drap brun n'était pas attachée aux genoux et les manches de sa chemise étaient relevées au-dessus du coude. Ce flibustier devenu campagnard avait l'air parfaitement chez lui dans cette ferme qui, comme un phare, commandait la vue de 2 rades et de la haute mer. Il traversa la cuisine pour aller s'asseoir devant la maison et laissa derrière lui la porte ouverte. Au bruit des sabots, un jeune homme qui était assis dehors sur un banc tourna la tête et lui adressa un salut nonchalant. Il avait le visage allongé et hâlé, le nez légèrement recourbé, le menton bien dessiné. Il portait une vareuse bleue d'officier de marine, ouverte sur une chemise blanche et une cravate noire à longue pointe. Une culotte blanche, des bas blancs et des souliers noirs à boucles d'acier complétaient son costume. Une épée à poignée de cuivre, dans un fourreau accroché à un ceinturon, était posée à terre près de lui. Pérol, dont le visage rouge reluisait sous ses cheveux blancs, s'assit sur le banc à quelque distance du jeune homme. Devant la maison, le terrain rocheux, nivelé sur une petite étendue, s'inclinait ensuite vers la mer par une pente qu'encadraient 2 collines dénudées. Le vieux forpan et le jeune marin, les bras croisés, regardaient vaguement devant eux, sans échanger une parole, comme 2 vieux amis ou comme 2 étrangers. Ils ne firent pas même un mouvement lorsque le maître de la ferme d'Escampobar apparut à la barrière, une fourche sur l'épaule, et se mit à traverser la cour. Avec ses mains noires, ses manches relevées, sa fourche, sa tenue de travail, tout son aspect prenait, un dimanche, un air de manifestation. Mais le patriote, dans la fraîche lumière de ce riant matin, traînait ses sabots avec un air de lassitude qu'un paysan n'aurait certainement pas eu à la fin d'une journée de travail. « Est-ce que ce garçon-là ne se repose jamais ?» demanda négligemment le jeune homme, sans même détourner la tête. « Pas le dimanche, en tout cas, » répondit Pérol du même air détaché. « Que voulez-vous ? La cloche de l'église, c'est un poison pour lui. » Il y a quelque temps, quand les prêtres ont commencé à revenir dans leur paroisse, imaginez-vous que ce garçon-là, et Pérol fit de la tête un geste dans la direction de la porte de la salle, est parti pour le village avec un sabre au côté et son bonnet rouge sur la tête. Il se dirigea vers la porte de l'église. Ce qu'il voulait y faire, je n'en sais rien. ce n'était certainement pas pour y dire ses prières. Tous les gens étaient enchantés de voir leur église rouverte. De sa fenêtre, une femme le vit passer et donna l'alarme. « Eh, voyez le jacobin, le sans-culotte, le buveur de sang, regardez-le !» Des gens sortirent précipitamment de chez eux. Un ou deux hommes qui travaillaient dans leur jardin se penchèrent par-dessus les murs de clôture. Une foule se fut bientôt rassemblée, des femmes surtout, chacune avec la première chose qui lui était tombée sous la main, un bâton, un couteau de cuisine, n'importe quoi. Quelques hommes, avec des bêches et des gourdins, les rejoignirent près de l'abreuvoir. Il ne trouva pas cela du tout de son goût. Que pouvait-il faire? Il rebroussa chemin et se mit à grimper la colline en courant comme un lapin. Il faut du courage pour tenir tête à une bande de femmes déchaînées. Il grimpa le chemin sans regarder derrière lui, et les autres se mirent à sa poursuite en hurlant « À mort, le buveur de sang !» Pendant des années, il n'avait cessé d'être un objet d'horreur et d'abomination pour tous ces gens, et maintenant, ils pensaient que leur tour était venu. Le prêtre, du fond de son presbytère, entend tout ce bruit et court à la porte. D'un coup d'œil, il comprend ce qui se passe. C'est un homme d'environ 40 ans, mais tout en air, avec de longues jambes, et agile avec ça. Il vous ramasse sa soutane et se met à bondir dehors, en prenant des raccourcis par-dessus de petits murs bas et en sautant de rocher en rocher comme une chèvre. J'étais là-haut dans ma chambre quand le bruit me parvint. Je me mis à la fenêtre et vis la poursuite qui allait son train. Je commençais à croire que cet imbécile allait nous amener toutes ses furies avec lui jusqu'ici et que ces gens-là allaient prendre la maison d'assaut et nous faire à tous un mauvais parti quand le prêtre lui coupa la route juste à temps. Il aurait pu faire tomber mon cévola comme un rien, mais il le laissa passer et se jeta au-devant de ses paroissiens, les bras étendus. Cela fit son effet. Il a sauvé le patron. Ce qu'il a bien pu leur dire pour les calmer, je n'en sais rien. C'était les premiers temps, et ils aimaient beaucoup leur nouveau prêtre. Ils faisaient d'eux ce qu'ils voulaient. Je m'étais penché à la fenêtre. C'était assez intéressant. Ils auraient volontiers massacré toute notre maudite bande, ainsi qu'ils nous appelaient dans le village. Quand je me retirais, la patronne était derrière moi, qui regardait aussi. « Vous venez ici depuis assez longtemps pour savoir comment elle circule, dehors et dans la maison, sans faire le moindre bruit. Une feuille ne se pose pas plus légèrement par terre que ne le font ses pieds. Je suppose qu'elle ignorait que j'étais là-haut et qu'elle était venue dans la chambre avec cette façon qu'elle a de toujours chercher quelque chose qu'elle ne trouve pas, et en me voyant ainsi penchée à la fenêtre, elle s'est naturellement approchée pour voir ce que je regardais. Elle n'était pas plus pâle que d'habitude, mais elle serrait sa robe contre sa poitrine avec ses 10 doigts comme ceci. J'en fus stupéfait. Avant même que j'aie pu retrouver l'usage de la parole, elle s'est retournée et elle est sortie de la pièce sans faire plus de bruit qu'une ombre. « En fait d'ombre, » fit indolemment le jeune officier, « je connais la sienne. » Le vieux Pérol n'a pu réprimer un geste. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il. « Où cela ? » ?»« Il n'y a qu'une fenêtre dans la chambre où l'on m'a mis à coucher hier soir, et j'étais là à regarder dehors. C'est pour cela que je suis ici, n'est-ce pas ? Pour regarder. Je m'étais éveillé en sursaut, et une fois éveillé, je suis allé me mettre à la fenêtre. « On ne voit pas d'ombre en l'air, » grommela le vieux Pérol. « Non, mais on en voit par terre, et assez noir même. » Quand la lune est pleine. Elle s'étendait sur cet endroit découvert depuis le coin de la maison. « La patronne ? » s'écria Pérol à voix basse. « Évidemment, je sais reconnaître une ombre. » Et quand je l'ai vue, cela ne m'a nullement effrayé, pas à moitié autant que ce que je vous en dis semble le faire. Tout de même, votre sans-culotte d'ami doit avoir un sacré sommeil. Tous ces pourvoyeurs de guillotine vous ont une conscience républicaine à l'épreuve du feu. Je les ai vus à l'œuvre dans le nord, quand j'étais enfant, et que je courais pieds nus dans les ruisseaux. « Il dort toujours dans cette chambre, » fit gravement Pérol. « Mais il ne s'agit pas de cela, » reprit l'officier. « Si ce n'est que cela fait peut-être l'affaire des ombres errantes que d'entendre la conscience de cet homme en prendre ainsi à son aise. » Pérol, fort agité, se contraignit à baisser la voix. « Lieutenant, » dit-il, « si je n'avais pas vu depuis le début... » ce que vous avez en tête, j'aurais trouvé moyen de me débarrasser de vous depuis longtemps, de façon ou d'autre. Le lieutenant lui lança de nouveau un regard de côté, et Pérol, qui avait levé le poing, le laissa retomber lourdement sur sa cuisse. « Je suis le vieux Pérol, et cet endroit-ci, aussi isolé qu'un navire en mer, est pour moi comme un navire. Tous ceux qui s'y trouvent sont mes camarades de bord. Ne vous occupez pas du patron. Je veux savoir seulement si vous avez entendu quelque chose. Un bruit quelconque? Un murmure? Un bruit de pas ?» Un sourire amer et moqueur passa sur les lèvres du jeune homme. « Pas même le pas d'une fée. Entendriez-vous tomber une feuille? Et avec ce sacré terroriste qui faisait un bruit de trompette juste au-dessus de ma tête ?» Sans décroiser les bras, il se tourna vers Pérol qui le regardait anxieusement. « Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire ce que j'ai entendu, et vous en ferez ce que vous voudrez. » J'ai entendu le bruit d'un faux pas. Ce n'était pas assurément une fée qui butait. C'était je ne sais quoi dans un gros soulier. Une pierre roula jusqu'au bas de ce ravin, interminablement, puis il y eut un silence de mort. Je n'ai rien vu remuer. De la façon dont la lune était placée, le ravin se trouvait plongé dans l'ombre, et je n'ai pas essayé de voir. Pérol, le coude sur un genou, appuya sa tête dans la paume de sa main. L'officier, sans desserrer les dents, répéta « Faites-en ce que vous voudrez. » Pérol hocha légèrement la tête. Le jeune officier s'appuya en arrière contre le mur, mais un moment après, le bruit d'une pièce d'artillerie leur parvint du bas de la falaise, le long de la pente à leur gauche, un bruit sourd, suivi d'une sorte de soupir qui semblait chercher une issue parmi ces crêtes rocheuses. C'est la corvette anglaise qui croise dans la rade d'hier depuis la semaine dernière, dit le jeune officier en ramassant brusquement son épée. Il se leva et boucla son ceinturon, et tandis que Pérol se levait plus lentement de son banc, il dit « Elle n'est certainement pas où nous l'avons vue à l'ancre hier soir. Ce canon avait l'air assez près. Elle a dû se rapprocher. Il y a eu assez de vent pour cela à certains moments cette nuit. Mais sur quoi peut-elle bien tirer là, dans la petite passe? Nous ferions bien d'aller voir. » Il s'élança, suivi de Pérol. On ne voyait pas une âme aux alentours de la ferme, on n'entendait pas le moindre bruit, si ce n'est le lointain mugissement d'une vache. Pérol emboîta le pas derrière l'officier, qui, rapidement, suivait le sentier dont la trace était à peine marquée sur la pente pierreuse de la colline. « Ce canon n'était pas chargé, » remarqua soudain Pérol d'une voix profonde et ferme. L'officier le regarda par-dessus son épaule. « Vous avez peut-être raison. Vous n'avez pas été canonnier pour rien. Pas chargé? Eh alors, c'est un signal. Mais à qui? Voilà des jours que nous observons cette corvette, et nous savons qu'elle n'a pas de compagnon. » Il avançait toujours, et Pérol le suivait sur le sentier raboteux, sans perdre haleine. Il répondit d'une voix ferme, « Elle n'a pas de compagnon, mais elle a peut-être aperçu un ami au lever du soleil ce matin. »« Ah bah !» répliqua l'officier sans ralentir le pas. « Vous parlez comme un enfant, ou bien vous me prenez pour un enfant ? À quelle distance aurait-elle pu voir ? Qu'aurait-elle pu découvrir au lever du jour, en se dirigeant vers la petite passe où elle se trouve maintenant ? Les îles lui auraient masqué les deux tiers de la mer, et justement dans la direction où l'escadre anglaise du blocus se promène au-dessous de l'horizon. Drôle de blocus ! On ne voit pas la moindre voile anglaise pendant des jours et des jours, puis au moment où l'on s'y attend le moins, ils arrivent en foule comme s'ils voulaient nous manger tout vif. Non, non, il n'y a pas eu assez de vent pour lui amener un compagnon. Mais dites-moi, canonnier, vous qui vous flattez de reconnaître le rugissement des pièces anglaises, quel canon était-ce ?
Une pièce de 12, grogna Pérol, la pièce la plus lourde qu'elle porte. Ce n'est qu'une corvette.
Eh bien alors, c'est donc qu'on aura tiré pour rappeler une des embarcations quelque part où nous ne pouvons la voir, le long de la côte. Avec une côte comme cela, tout en pointe et en cric, cela n'aurait rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ?
Non, dit Pérol en marchant d'un pas ferme. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ait mis une embarcation à la mer.
Oui, vous avez raison. L'officier s'arrêta soudain. C'est étonnant qu'elle ait envoyé une embarcation. Mais je ne vois pas comment expliquer autrement ce coup de canon.
Le visage de Pérol ne trahissait aucune émotion. Il y a là quelque chose qui mérite une investigation, reprit avec animation l'officier. S'il ne s'agit que d'une embarcation, reprit Perrol, le plus tranquillement du monde, cela ne peut pas être quelque chose de bien sérieux.
Qu'est-ce que cela pourrait bien être ?
Vraisemblablement, ils l'auront envoyé sur la côte de bonne heure le matin, avec des lignes, pour essayer d'attraper du poisson pour le petit déjeuner du capitaine. Pourquoi écarquillez-vous les yeux ainsi ? Vous ne connaissez donc pas les Anglais ? Ils sont capables de tout. Après avoir prononcé ces mots avec une lenteur à laquelle ses cheveux blancs donnaient un air vénérable, Perrol fit le geste d'essuyer son front, qui cependant était à peine moite. « Allons !» dit brusquement le lieutenant. « Pourquoi courir ainsi ?» fit Perrol sans bouger. « Mes sabots sont lourds et me font trébucher sur ces pierres. »« Vraiment ?» s'écria l'officier. « Eh bien, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir et vous éventer avec votre chapeau. Au revoir !» Et il s'éloigna à grands pas avant que Perrol eût eu le temps d'ouvrir la bouche. L'inquiétude croissante de celui-ci prit brusquement fin quand il vit devant lui Arlette qui se détachait sur le ciel ensoleillé et descendait le sentier par lequel le lieutenant avait disparu. Perrol alla rapidement à sa rencontre. Il n'était pas homme à perdre son temps et les sabots ne semblaient pas lui peser beaucoup aux pieds. La fermière, que les gens du village appelaient Arlette, comme si elle n'avait été qu'une petite fille, et cela avec un étrange accent de terreur, s'avançait, la tête baissée, les pieds touchant le sol aussi légèrement qu'une feuille, comme disait Perrol. Le bruit des sabots lui fit lever les yeux, ses yeux noirs ouverts dans son enfance, sur de tels spectacles de terreur et de sang qu'elle en avait conservé une crainte de regarder longtemps droit devant elle, de peur de voir se former aussitôt quelque vision de mort. C'est ce que Perrol appelait « essayer de voir quelque chose qui n'y était pas ». Et cette mobilité, évasive et franche à la fois, faisait tellement partie de son être que la fermeté avec laquelle elle soutint son regard inquisiteur surprit un moment le vieux Perrol. « Vous a-t-il parlé ? » demanda-t-il sans autre préambule. Elle répondit d'un ton dégagé et provoquant, qui frappa également Perrol comme une nouveauté. « Il ne s'est même pas arrêté. Il a passé près de moi comme s'il ne m'avait pas vu. » Ils détournèrent leurs regards l'un de l'autre. « Dites-moi, qu'est-ce que vous surveillez donc comme ça la nuit ?» Elle ne s'attendait pas à cette question. Elle baissa la tête et prit entre ses doigts un pli de sa robe avec l'air embarrassé d'un enfant. « Et pourquoi pas ? » murmura-t-elle à voix basse, timidement. « Qu'a dit Catherine ?» Elle dormait, ou peut-être était-elle seulement étendue sur le dos, les yeux fermés. « Cela lui arrive ?» demanda Perrol d'un air incrédule. « Oui. » Et Arlette fit à Perrol un étrange et vague sourire, sans que ses yeux prissent la moindre expression. « Oui, cela lui arrive souvent. Je l'avais déjà remarqué. Elle reste là à trembler sous ses couvertures jusqu'à ce que je revienne. Qu'est-ce qui vous a fait sortir la nuit dernière ?» Perrol essaya de saisir son regard, mais ses yeux lui échappèrent comme d'habitude, et son visage semblait maintenant incapable d'un sourire. « Mon cœur, » dit-elle. Perrol en demeura un moment interdit et incapable de faire un geste. La fermière ayant baissé les yeux, tout ce qu'elle avait de vie sembla s'être réfugié sur ses lèvres d'un rouge vif et d'un dessin parfait. Perrol, d'un geste du bras, abandonna la partie et s'engagea dans le sentier sans regarder derrière lui. Une fois qu'il eut dépassé le tournant, il s'approcha de l'observatoire en ralentissant le pas. C'était une bande de terrain tout unie, au-dessous du sommet de la colline. La pente en était accentuée, si bien qu'un pin trapu qui s'y trouvait surplombait de quelque 50 pieds le bord de la crique. La première chose que Perrol aperçut, ce fut l'eau de la petite passe, dont l'ombre énorme de l'île de Porquerolles assombrissait à demi l'étendue à cette heure encore matinale. Il ne pouvait la découvrir tout entière, mais sur la partie qu'embrassait son regard, on ne voyait aucun navire. Le lieutenant, à plat ventre le long du pin incliné, lui cria d'un air furieux « Accroupissez-vous ! Croyez-vous donc qu'il n'y a pas de lorgnette à bord de cette corvette anglaise ?» Perrol obéit sans mot dire, et pendant une minute environ, donna l'étrange spectacle d'un robuste paysan aux vénérables boucles blanches qui grimpait une colline à quatre pattes, sans qu'on pût comprendre pourquoi. Quand il eut atteint le pied de l'arbre, il se releva sur les genoux. Le lieutenant, aplati contre le tronc incliné, la lorgnette contre l'œil, grommela avec colère « Vous la voyez maintenant, n'est-ce pas ?» Pérol, à genoux, découvrit alors le navire. Il était à moins d'un quart de mille, et de sa voix puissante, il aurait presque pu le héler sans effort. Il pouvait, à l'œil nu, suivre les mouvements de ses hommes, comme des points noirs sur le pont. La corvette était venue si près que la masse du cap Estérel semblait toucher l'arrière du navire. À la voir si rapprochée, Pérol en retint son souffle. Le lieutenant, la lorgnette toujours collée à son œil, murmura « Je peux distinguer jusqu'aux épaulettes des officiers sur la dunette. »